RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 à RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble nous recevons Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, écologie, bonsoir. Démocratie, solidarité, c'est le nouveau nom du 9e groupe à l'Assemblée nationale. Il n'y en a jamais eu autant. Ils sont 17 députés et parmi eux, 7 sont issus du parti présidentiel La République En Marche, qui perd sa majorité absolue, mais qui pourra s'appuyer sur ses alliés Modem et Agir, c'est-à-dire la droite macro-compatible. Est-ce pour vous un coup dur ou au contraire une sorte de clarification pour tout le monde ?
Je trouve surtout que c'est un contretemps politique parce que dans un moment où on vit une crise sanitaire absolument exceptionnelle, je trouve évidemment étrange qu'il y ait cette initiative de division, d'autant plus que pour ceux qui y participent, ils souhaitaient qu'il y ait, je crois, plus de débats à l'intérieur de la majorité, qu'on puisse réfléchir à ce que sera la seconde partie du quinquennat du président de la République. Et c'est justement dans le moment où nous sommes, où nous avons à réfléchir collectivement, aussi bien au sein de la République En Marche que au sein du groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale, que nous avons à réfléchir à ce que sera la suite. Donc je suis assez étonnée que cette initiative de division intervienne à ce moment précisément.
Oui, mais alors justement, selon vous, pourquoi ont-ils choisi ce moment ? À quelle logique politique ça peut répondre ?
C'est une excellente question et je crains malheureusement que ce ne soit pas
vous
à moi d'y
répondre,
mais bien
réponse.
À ceux qui aujourd'hui... C'est, je crois malheureusement, à ceux qui participent à cette initiative qu'il faut poser la question. Quand j'entends certains d'entre eux parler, puisqu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer dans les médias, j'avoue que je ne comprends pas quelle est la ligne politique qui est défendue à travers leur départ. Et donc, j'attends de voir, est-ce qu'ils s'inscriront dans la majorité, est-ce qu'ils s'inscriront dans l'opposition. Moi, je crois en tout cas qu'on ne peut pas avoir un pied dedans et un pied dehors tout à la fois.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des arrière-pensées en vue de la prochaine présidentielle ?
Écoutez, je crois honnêtement que si tel était le cas, on est vraiment là, non seulement dans le contresens, mais aussi dans le contretemps. On est aujourd'hui encore en train de gérer cette crise sanitaire dont je vous disais qu'elle était exceptionnelle. Ce que les Français attendent de nous, c'est qu'on mène à bien le déconfinement et qu'ensuite on s'organise pour la relance. Les questions concernant l'élection présidentielle ne sont, de mon point de vue, pas aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français.
Ce qu'attendent peut-être les Français, Emmanuel Macron a été élu sur la promesse d'être le réformateur. Et aujourd'hui, avec l'apparition du virus, les Français vont attendre de lui d'être plutôt celui qui protège. Comment va-t-il refonder, en quelques mots, sa vision et sa politique sociale, économique ? Je sais que c'est une question compliquée, mais si vous pouvez tenter d'y répondre.
Je crois très profondément que le fait que dans notre pays, il existe aujourd'hui un besoin de protection très fort, et c'est assez juste, je crois, n'empêche pas qu'on puisse continuer à le transformer. Parce que justement, pour apporter de la protection à ceux qui sont les plus défavorisés notamment, il faut que nous puissions produire des richesses, il faut aussi qu'on soit en capacité d'offrir du travail à tous ceux qui sont aujourd'hui sur le marché de l'emploi. C'est le chemin qu'on a emprunté depuis le début du quinquennat, et nous commencions, pour tout avouer, au début de l'année 2020, avoir des résultats qui étaient extrêmement encourageants sur le front de l'emploi, sur le front de l'activité économique. Malheureusement, le Covid est venu bousculer tout cela, mais je crois que la stratégie budgétaire et économique qu'on a eue depuis le début du quinquennat commençait à porter ses fruits. Il faut voir désormais, en fonction de ce que sera exactement la nature de cette crise, quelles orientations nous devons prendre. Mais en tout état de cause, il m'apparaît que la lutte contre les inégalités et le partage de l'effort entre tout le monde dans la société française devront être au cœur de l'action que nous aurons à mener dans les années et dans les mois à venir.
À propos de protection, Sibeth Ndiaye, les masques sont un instrument de la protection. Désormais, tout le monde est d'accord sur cette question. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous savez que c'est le sujet polémique récurrent depuis le début de la crise sanitaire. Et il y a quelques jours, Emmanuel Macron a fait bondir beaucoup de monde en disant qu'il n'y avait jamais eu de pénurie de masques en France, mais une politique restrictive assumée pour éviter la rupture. C'est un nouvel argument, ça, donc, qui vient d'apparaître.
Non, pas du tout. Ce que le président de la République a voulu indiquer, c'est que les soignants n'avaient pas été confrontés à une rupture de masques, en particulier dans les hôpitaux. Nous avons trouvé
ça
une situation au début de cette crise
de soignants,
où nous avions
ça,
un stock... Nous avons trouvé au début de cette crise une situation difficile dans laquelle nous n'avions qu'un stock de 117 millions de masques chirurgicaux adultes et aucun masque FFP2, ces fameux masques en bec de canard. Le président de la République et le Premier ministre ont fait le choix, coûte que coûte, de préserver l'accès à ces masques pour les soignants, étant entendu d'ailleurs qu'à l'époque, il n'y avait pas de doctrine consensuelle sur l'utilisation des masques pour tout un chacun dans la rue ou dans l'activité du quotidien. Et donc, nous avons fait le choix non seulement de réserver les masques au personnel soignant, d'abord dans les hôpitaux, mais aussi dans la médecine de ville. Et au fur et à mesure que nous avons eu des capacités d'importation nouvelles, mais aussi des capacités de production au plan national, nous avons élargi cette doctrine de distribution des masques qui nous a conduit à distribuer de l'ordre de 45 millions de masques par semaine au cœur de la crise et aujourd'hui 100 millions de masques par semaine à l'ensemble de la communauté soignante.
Est-ce qu'aujourd'hui, d'après les informations dont vous disposez au gouvernement, le spectre de la deuxième vague du coronavirus semble s'éloigner? C'est un discours qu'on commence à entendre chez certains scientifiques.
Je crois qu'il ne faut pas se réjouir de manière trop rapide. On est en ce moment dans une phase de déconfinement dont nous n'avons pas encore aujourd'hui les résultats. Il nous faudra attendre encore quelques jours pour voir comment est-ce que cette phase a eu un impact sur la circulation du virus. Est-ce que nous avons réussi à continuer à contenir cette propagation du virus dans la population française? Je crois qu'il est vraiment beaucoup trop tôt pour avoir des anticipations sur le fait qu'il y aurait une seconde vague ou un scénario avec des allées et retours dans la circulation, dans l'intensité de la circulation du virus. Ça nous appelle à avoir toujours beaucoup de prudence, à rester concentrés et à ne surtout pas relâcher notre attention dans les semaines et sans doute malheureusement dans les mois à venir.
Alors Sibeth Ndiaye, le conseil scientifique a rendu son avis aujourd'hui pour la tenue du deuxième tour des municipales en juin. C'est un oui mais, il ne s'y oppose pas mais estime nécessaire une évaluation sanitaire. En clair, il renvoie la responsabilité au gouvernement. On a l'impression que tout le monde ouvre un peu son parapluie. Alors que compte faire le Premier ministre? Y aura-t-il un débat au Parlement suivi d'un vote? Car on a entendu en tout cas ce matin les réticences du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand.
Alors je crois que là encore, le Conseil scientifique a eu effectivement une position qui était très honnête compte tenu de l'état de la situation sanitaire, de la connaissance que nous en avons à l'instant où je vous parle. Ils nous disent au fond qu'il faut distinguer deux moments dans ce processus électoral. Celui du jour du vote, à proprement dire, où comme au premier tour, nous sommes en capacité de mettre en place les mesures de distanciation sociale, de précaution sanitaire pour protéger ceux qui iront voter et ceux qui tiendront les bureaux de vote. Et ils apportent, ils témoignent de la difficulté qu'il y a à organiser une campagne électorale, ce qui doit précéder le jour du vote, dans de bonnes conditions sanitaires. Et donc, ils posent les choses en fonction de ce qu'ils savent aujourd'hui de la situation sanitaire. Ils nous invitent également à une forme de clause de revoyure d'ici 15 jours. Nous savons aujourd'hui ce qu'il en est de cet avis du Conseil scientifique. Le Premier ministre est engagé à ce qu'il puisse y avoir une consultation des chefs de parti, de ceux qui sont à la tête aujourd'hui des forces politiques de notre pays. Il faut voir quel est leur avis pour que tous nous ayons à dire ce que nous pensons de la situation sanitaire et de la capacité ou pas à organiser dans ces circonstances le second tour des élections dès le mois de juin. Et aujourd'hui, cette décision n'est pas prise.
Le Sénat et l'Assemblée nationale, chacun dans leur coin, vont lancer une commission d'enquête sur la crise du Covid. Tous les ministres concernés par cette crise sanitaire pourront être convoqués, ainsi que le Premier ministre Édouard Philippe. Comment prenez-vous cette initiative? Craignez-vous qu'elle soit à charge ou au contraire qu'elle permette de déterminer les faiblesses et les blocages qui ont pu entraver les décisions?
Moi, je crois toujours important, une fois que on a passé le moment aigu d'une crise, de se poser la question de ce qui a bien fonctionné et de ce qui n'a pas bien fonctionné. Depuis le début de cette crise, le gouvernement, l'exécutif, a toujours répondu présent lorsqu'il s'agissait de répondre aux parlementaires. De nombreux ministres ont été, au cours des dernières semaines, auditionnés, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Cette disponibilité, nous continuerons bien sûr à l'avoir. Et s'il advient, au cours de ces enquêtes parlementaires, que des manques, des insuffisances, présence soit révélée, ça doit être un point d'appui pour pouvoir améliorer les choses par la suite. Donc nous sommes évidemment extrêmement disponibles pour ce qui est de l'exécutif pour répondre à toutes les questions qui nous seront posées dans le cadre de ces enquêtes parlementaires.
Deux questions, Siben Ndiaye, sur les semaines et les mois qui viennent. D'abord, on sait que les Français pourront partir en vacances en France. Ça, pour l'instant, on en est sûr. À quoi vont ressembler leurs vacances? Est-ce que ce sera debout sur la plage?
Alors, c'est difficile à dire aujourd'hui. Les Français pourront partir cet été en vacances, évidemment, dès lors que la situation sanitaire qui aujourd'hui est stabilisée continuera de l'être dans les semaines et dans les mois à venir, ça va sans dire. Il pourra y avoir des restrictions localisées. Je crains malheureusement que les vacances que nous aurons cet été ne ressembleront pas forcément à ce que nous avons connu. Mais de la même manière que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui amenés à évoluer dans notre vie quotidienne n'est pas exactement le même que celui que nous avons connu avant le début de la crise du coronavirus. Donc il faudra s'adapter et au fond apprendre à vivre avec le virus tant que nous n'avons ni vaccin ni traitement.
Bon, je disais debout sur la plage, c'était pour souligner peut-être l'absurdité de certaines dispositions, comme l'interdiction de s'asseoir ou de s'allonger, mais enfin, on va peut-être pas s'étendre dessus. De retour de vacances...
Mais au fond, aujourd'hui, je voudrais peut-être juste simplement réagir à ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, on est dans une phase de déconfinement qui est progressif. Oui. Donc, il faut pas que du jour au lendemain, on relâche notre attention sur toutes les mesures qui ont été prises. Donc, il faut aller palier par palier, regarder à chaque fois,
donc,
toutes les trois semaines, l'évolution
assis,
de la situation. Épidémique. Alors, je ne sais pas comment ça se traduit de manière concrète, hein, mais ce dont je suis persuadée, c'est qu'il ne faut pas passer du tout au tout. On a été confinés, ça a été dur pour tout le monde. Ça a eu parfois des conséquences sociales extrêmement difficiles pour tous nos concitoyens. Oui. Il faut qu'on y aille progressivement, avec prudence, dans les semaines à venir.
Alors, de retour... de vacances pour ceux qui pourront en prendre, il y aura la rentrée qui risque d'être dure. Emmanuel Macron a dit dimanche dernier, on va souffrir. Qui va souffrir ?
Je sais, je crois que, comme pour l'ensemble de nos compatriotes, chacun mesure bien à quel point la crise qu'on est en train de vivre, d'un point de vue sanitaire, aura des répercussions économiques, aura des répercussions sociales. Ce que nous avons voulu faire depuis plusieurs semaines maintenant, c'est d'abord sauvegarder notre économie, réagir dans l'urgence pour faire en sorte que nos entreprises, que les travailleurs en France puissent bénéficier de filets de sécurité, de filets de protection. Il nous faudra apporter une aide particulière dans un certain nombre de secteurs qui aujourd'hui, tout de suite, je pense à l'aéronautique, je pense au tourisme, aux industries culturelles par exemple, je pense évidemment au commerce, à l'hôtellerie, à la restauration, qui aujourd'hui sont dans des situations très critiques et pour lesquelles il nous faut des plans d'urgence. Et puis, on aura à faire face à l'après-crise. Ça nécessitera un plan de relance globale de notre économie et de notre activité pour limiter au maximum les dégâts d'une éventuelle crise sociale. Et évidemment, malheureusement, il y aura sans doute des Français qui auront à souffrir, mais le gouvernement sera à leur côté pour passer ce moment évidemment très difficile.
Alors, il y a aussi la relance européenne. Le couple franco-allemand reprend de la vigueur. L'Europe aussi. Paris et Berlin se sont mis d'accord sur un fonds de solidarité de 500 milliards d'euros. Ce n'était pas gagné. Ça change le destin de l'Europe. Et c'est de nature à, en quelque sorte, à stopper la mauvaise pente sur laquelle elle était, cette Europe.
Ben, je crois que ça apporte la démonstration qu'en Europe, on sait toujours se dépasser. On l'a vu au moment de la crise financière de 2008-2009, on le vit encore aujourd'hui. Il faut être honnête, oui, l'Europe a eu de la lenteur au démarrage. Il faut aussi convenir du fait que les questions de santé appartiennent aux États nationaux et que ce n'était pas de la prérogative de l'Union européenne. Ce qu'a apporté comme démonstration cette pandémie, c'est que nous avions la nécessité de réagir de manière collective, coordonnée au niveau de l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière d'achat de matériel de protection, par exemple, en matière de solidarité entre les États européens. Et l'étape qui a été marquée hier par Angela Merkel et Emmanuel Macron est une étape, au fond, qui permet de mesurer à quel point, petit à petit, l'Europe sait se dépasser, sait continuer à avancer. Et au fond, le principe que nous avons établi hier en franco-allemand et que nous aurons désormais à partager avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est que chacun doit recevoir selon ses besoins et contribuer selon ses moyens. C'est ça ce qui marque la solidarité à l'intérieur de l'Union européenne et je crois qu'on peut en être véritablement très fier.
Mais c'est pas gagné parce que il va falloir convaincre les 25 autres pays qui ne veulent pas payer pour les autres. Hein, on les appelle le club des radins. Et puis autre incertitude, qui va rembourser ?
Alors, que le remboursement, il sera effectué par l'ensemble des États européens. Je vous disais, chacun remboursera, contribuera en fonction de ses moyens et recevra en fonction de ses besoins. C'est important, ce diptyque-là, au fond, parce qu'on voit bien qu'il y a des régions qui ont été touchées différemment, impactées différemment par la crise sanitaire qu'on est en train de vivre et qui, évidemment, vont avoir des besoins différents dans le cadre de la relance et de la gestion de l'après-crise. Il faut donc qu'on puisse venir en aide à la fois aux régions qui ont été les plus touchées, mais aussi aux secteurs économiques qui ont été les plus touchés. Et il faut aussi qu'on agisse en pensant à l'après. L'après, c'est la conservation de notre ambition environnementale et écologique. C'est aussi la restructuration de notre souveraineté en matière industrielle pour un certain nombre d'industries critiques. Nous aurons évidemment à convaincre tous nos partenaires européens. Je ne dis pas que ça va être un chemin semé de roses, mais je crois très profondément qu'il faut éviter d'opposer les pays européens les uns contre les autres et que nous saurons, à travers le dialogue que nous allons entamer dans les jours et les semaines à venir, notamment avec Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, convaincre tous nos partenaires européens de la nécessité de cette solidarité pour relancer l'Europe après la crise.
Sibeth Ndiaye, si les choses se passent comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que chaque pays reçoit et rembourse en fonction de ses moyens, est-ce que ce plan, il coûterait ou il rapporterait à la France ?
Alors c'est difficile aujourd'hui de le dire parce que nous n'avons pas encore établi ce que pourraient être les besoins de la France. Vous le savez, nous avons déjà fait des choix budgétaires marquants. Ce sont aujourd'hui plus de 100 milliards d'euros qui sont consacrés à la sauvegarde de nos entreprises, de notre économie. On a près d'un salarié sur deux dans le secteur privé qui est soutenu par l'État pour percevoir son salaire. Donc on ne sait pas encore quels seront les impacts définitifs de cette crise. Donc je suis bien en peine aujourd'hui de vous donner des montants, mais ce qui compte, c'est que à un moment donné, on soit capable de faire montre de cette solidarité, mais aussi de visualiser ce que devra être l'avenir de l'Europe, parce que cette pandémie, elle nous montre ce qu'ont été nos faiblesses, aussi ce qu'ont été nos forces, et c'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour déterminer ce que sera l'avenir.
Merci. Merci, Sibeth Ndiaye.
Merci beaucoup, Sibeth Ndiaye, d'avoir été notre invitée. Et remerciements aussi à Charlotte Urien-Tomaka, Armel Co sur place et Karim Hakiki. Et bien sûr, à toute l'équipe technique dans des conditions, vous le voyez, qui sont toujours éloignées.
Et on peut dire que désormais, nous nous retrouvons mardi prochain.
Et on se retrouve mardi prochain. Merci beaucoup. Merci à tous.
Merci, bonsoir.
Exprimez-vous. Juan Gomez.
Depuis le début du mois, plusieurs pays d'Afrique ont assoupli les mesures de confinement instaurées pour combattre le Covid-19, suscitant un soulagement mais aussi des inquiétudes au sein de la population. Constatez-vous un relâchement dans les comportements ? Vos témoignages nous intéressent.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone demain à partir de 8h10 TU.
RFI.
Série spéciale.